Chapitre 3 La baronne Merloux. La baronne Merloux était une femme que l'on peut, sans être taxé d'exagération, qualifier de tout à fait extraordinaire. Certes, il était très difficile et pour ainsi dire même impossible de dire exactement d'où elle venait, mais ce qui était encore plus malaisé, c'était de lui donner un âge. Vêtue comme une toute jeune femme, portant des jupes extrêmement courtes, sa tête outrageusement maquillée, coiffée d'une perruque blonde à la garçonne, encore svelte et même très ingambe, elle représentait, pour les uns, le type de la vieille dame qui veut se faire passer pour jeune, et pour d'autres, elle figurait fort bien le spécimen beaucoup plus exceptionnel de la jeune femme qui veut se faire passer pour vieille. Elle demeurait dans un petit hôtel particulier de la rue Fortuny. Elle n'en sortait d'ailleurs que pour couvrir chaque jour en voiture le tour du bois de Boulogne, et en revenant, elle se faisait conduire dans un grand magasin de la rive droite où l'on prend le thé, et elle regagnait son domicile, sans d'ailleurs jamais avoir adressé la parole à personne et sans que personne ne l'eût jamais saluée sur son passage. Que faisait-elle? Ses voisins, ses fournisseurs eux-mêmes, l'ignoraient et personne d'ailleurs ne paraissait s'en soucier. De temps en temps, on voyait bien s'arrêter devant sa porte des autos de luxe, d'où sortaient généralement de jolies femmes très élégantes qui sonnaient à la porte de l'hôtel, y pénétraient rapidement et ressortaient environ au bout d'un quart d'heure. Un observateur se fut alors aperçu que, la plupart du temps, des colliers de perles que celles-ci portaient avaient disparu, ainsi que les bagues qui ornaient leurs doigts. Parfois aussi, on voyait arriver des hommes de tous les âges, portant sous leurs bras des paquets plus ou moins volumineux. Ils pénétraient également dans la maison et en ressortaient aussi rapidement, délestés de leurs fardeaux. En réalité, la baronne Merloux était ce qu'on appelle non pas une marchande à la toilette, mais une prêteuse sur gage. Elle s'était constituée une clientèle non pas dans le monde de la galanterie, car elle n'avait aucune espèce de confiance en celle qui exerce cette aimable profession. Elle avait préféré choisir une clientèle plus conforme à ses principes, qu'elle proclamait d'une rigueur excessive quant aux mœurs et d'une probité absolue en affaires. Elle était donc devenue en quelque sorte le petit manteau bleu des gens du monde et des artistes qui, traversant une mauvaise passe, avaient besoin d'argent immédiat. Ce jour-là, la baronne Merloux devait attendre une visite importante, car rompant avec une habitude à laquelle elle semblait tenir beaucoup, elle avait renoncé à sa sortie quotidienne en voiture et, installée dans un boudoir meublé avec un luxe de mauvais goût, elle avait déjà, à plusieurs reprises, consulté un cartel en 6 000 Louis XV d'un regard anxieux, impatient. Elle avait murmuré « Pourvu qu'il n'arrive pas en retard, et surtout pourvu qu'il vienne !» Vers 15 heures, une femme de chambre aux allures de soubrette d'opéra comique vint lui annoncer d'un air mystérieux que le monsieur était là. La baronne interrogea. « Vous l'avez fait entrer dans le grand salon ?»«
Oui, madame la baronne. »«
Il est seul ?»«
Oui, tout seul, madame la baronne. »«
C'est bien, dites à ce monsieur que je vais le recevoir dans un instant. »
En un geste instinctif de coquetterie féminine, la baronne se campa devant une glace qui lui refléta aussitôt son image. Elle dut en être satisfaite et se trouva même fort à son avantage. car un sourire de satisfaction entr'ouvrit ses lèvres qu'elle avait empourprées soigneusement à l'aide d'un bâton de rouge dit électrique. La baronne n'était vraiment pas difficile. On peut dire qu'elle se contentait de peu. Jamais encore, en effet, dans sa robe prétentieuse, et que n'eût pas osé porter une toute jeune femme, elle n'avait eu autant l'air d'une guenon qui s'apprêtait à danser au son d'un jazz band invisible. Convaincue qu'elle ne pouvait que produire sur son futur et énigmatique interlocuteur un effet considérable, elle se dirigea vers une porte dont elle ouvrit un des battants et pénétra dans la pièce voisine tout en minaudant et en faisant des grâces, ce qui achevait de la rendre catégoriquement ridicule. Un homme très chic se tenait debout au milieu du salon. C'était Sir Jack Sorette. « Cher monsieur, intervint, invitait la maîtresse de maison, vous m'avez témoigné le désir de me connaître. J'en ai été vraiment flatté, et si je puis vous être agréable ?» Tout en parlant, elle offrait un siège au visiteur qui, après s'être incliné devant elle cérémonieusement et avec autant de déférence que devant une grande dame authentique, s'y installa gravement. La baronne prit place en face de lui sur un canapé encombré de coussins et d'un geste aimable, elle invita le milliardaire à parler. Jacques Sorette reprit sur un ton plein de correction, mais un peu distant tout de même. « Vous avez dû recevoir la visite de mon secrétaire, Jim Summerfield. »«
Oui, monsieur, et c'est un homme charmant, très distingué. »
Sèchement, l'Américain coupait. « Je le sais, madame. Voilà 5 ans qu'il est à mon service. » Et sans donner le temps à madame Merloup de respirer, il poursuivit. « Jim Summerfield vous a donc mis au courant de l'affaire que j'entends traiter avec vous. »
« Parfaitement, monsieur. »
« Tout à fait, businessman, Sorret martela. » Avez-vous l'intention d'y donner suite ?
Un peu déconcerté par la brusquerie avec laquelle s'exprimait son interlocuteur, la baronne ripostait.
Mais je viens de vous le dire, cher monsieur, combien j'étais désireuse de vous être agréable, et ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'entrer en rapport avec un personnage de votre envergure.
Vous pouvez ajouter la bonne fortune,
ou j'allais le dire.
À la bonne heure, tout au moins vous êtes franche et je suis convaincu que nous allons nous entendre.
Je l'espère, posait la femme à la perruque blonde.
Comment, vous n'en êtes pas sûr? Faisait semblant de s'étonner Sir Jack.
La baronne, qui au fond était une très fine mouche, reprenait en baissant modestement les yeux.
Je suis tout disposé à entrer dans vos vues, d'abord parce que l'affaire que vous me proposez est par elle-même extrêmement intéressante, et ensuite parce que, d'après les déclarations de votre secrétaire, vous êtes décidé à ne reculer devant rien pour aboutir.
« Oui, devant rien, en effet, » scandait le financier.
« Malheureusement, » poursuivait Madame Merloup, « je me demande si, avant de m'engager envers vous, je suis bien la personne qu'il vous faut pour mener à bien une opération aussi délicate. »
Oh, moi, je suis sûr que si, affirmait l'Américain avec un accent de conviction absolue.
Pourtant, vous ne me connaissez pas, ou du moins si peu.
Je vous connais très bien, au contraire, et peut-être beaucoup mieux que vous ne vous l'imaginez.
Alors, cher monsieur, vous devez savoir que j'ai la faiblesse d'avoir des principes.
Des principes, et lesquels?
De morale.
Vous, oh, laissez-moi rire.
Cher monsieur, je ne suis pas l'ennemi d'une douce gaieté, sauf lorsqu'elle s'exerce à mes dépens.
Flegmatiquement, Sir Sorette répliquait. Bon, c'est à vous à ne pas la provoquer.
L'air volontairement piqué, Madame Merlou s'exclamait.
Mais je me demande en quoi, par exemple, j'ai pu exciter votre moquerie.
Je vais vous le dire, répliquait l'Américain, car j'ai toujours eu pour principe d'aller droit au but, et j'ai surtout horreur des sous-entendus autant que des malentendus. Vous m'avez fait rire intérieurement, et cela ne m'arrive pas souvent, en me disant que vous aviez des principes de morale. Vous pouvez, madame, raconter cela à votre clientèle habituelle, mais à moi, non. D'abord, parce que je ne suis pas précisément un naïf. Comme vous le dites en France, je puis sortir sans ma gouvernante, et puis, je suis très renseigné.
Sur moi ? Tressaillit légèrement la prêteuse à gages.
Oui, sur vous, et voilà pourquoi je m'étonne que, par scrupule, vous hésitiez à répondre par un oui formel aux propositions que je vous ai fait faire. Vous étiez moins rigoriste, madame, lorsqu'il y a quelques années, vous habitiez une certaine maison dite centrale. Vous deviez vous livrer à certains travaux de couture qui n'avaient rien de volontaire.
La baronne pâlit sous son fard. Mais qui a pu vous dire d'une chose pareille?
Chercha-t-elle à protester. Implacable, l'Américain scandait. Est-ce vrai ou non?
Accablé, l'ex-condamné de droit commun baissa la tête. Désormais, elle était fixée. Cet homme la tenait, elle n'allait plus être qu'un instrument dans ses mains. Il s'agissait pour elle non pas de reculer, mais de tirer le plus de profit possible d'une situation dans laquelle elle ne pouvait plus hésiter à s'engager. D'une voix qui tremblait un peu, elle reprit
« Cher monsieur, je crains que vous n'ayez pas très bien saisi le sens de mes restrictions. Elles étaient de pure forme. Et je préfère vous le dire maintenant. Elles étaient surtout causées par ma crainte d'être au-dessous de la tâche que vous vouliez me confier. »
D'un air sceptique, le milliardaire reprenait.
« Vous croyez? Moi pas. Je connais votre pédigré depuis A jusqu'à Z. Vous avez fait plus difficile que cela, madame, et si vous n'aviez pas été dénoncée par une de vos complices, je crois que vous n'auriez pas été demeurée pendant une dizaine d'années à la prison de Rennes. Mais je n'insiste pas. Nous nous comprenons très bien, et j'estime maintenant qu'il est inutile de remuer certains souvenirs qui ne peuvent que vous être désagréables et auxquels je ne tiens nullement à m'arrêter, puisqu'ils m'intéressent simplement qu'à titre documentaire. Je vous ai fait demander par mon secrétaire Jim Summerfield si vous consentiriez à m'aider à compromettre irrémédiablement une jeune femme dont je veux absolument me venger. Maintenant, c'est oui ou non. Avant d'entrer avec vous dans les détails, j'entends que vous me donniez une réponse catégorique. Nous aviserons ensuite aux détails. Si nous tombons d'accord, je vous verserai immédiatement à titre de provision un chèque de 2 000 $. Et si vous réussissez, je vous renverserai un nouveau chèque, non plus de 2, mais de 10 000 $. Si vous échouez, je vous dédommagerai néanmoins de tous les frais et des bourgs que vous aurez faits et que vous pourrez me justifier. Mais si vous refusez... L'Américain prit un temps et laissa tomber sur son interlocutrice un de ses regards qui en disa eux seuls bien plus que de longs discours. Puis il reprit... Si vous refusez, je serai obligé, à mon vif regret, chère madame, de faire savoir à vos amis, relations et clientèle, d'où vous venez, qui vous êtes et où l'on peut vous envoyer. Cette fois, sans la moindre réticence, la baronne déclarait
« J'accepte ».
L'air satisfait, le financier reprenait.
Vous voyez qu'il était absolument inutile de vous faire tirer l'oreille. Vous nous avez fait perdre du temps. Il s'agit maintenant de le rattraper. Passons donc aux détails. La jeune femme en question, dont je vous donnerai le nom tout à l'heure, est mariée à un gentilhomme français qui porte un nom connu et qui, après avoir été compromis dans une affaire financière, a disparu au cours d'une expédition au Maroc, enlevé, croit-on, par des dissidents qui l'ont entraîné dans leur tribu et le conservent précieusement en otage. Je vous donne cette version pour ce qu'elle vaut. Il se peut que la vérité soit toute différente. Mais peu importe, l'essentiel est que pour l'instant, le mari soit au loin et surtout dans l'impossibilité d'intervenir. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Cette femme demeure en ce moment chez sa mère. Elle est profondément attachée à son mari. Je l'en crois même très éprise. Vous voyez, je ne vous dissimule pas les difficultés de votre mission. Ce qu'il faut, c'est non point la détacher de celui qu'elle aime, ce qui demanderait beaucoup trop de temps et risquerait fort d'aboutir à un échec. Il s'agit au contraire de la placer dans une telle situation qu'elle apparaisse aux yeux de tous comme une jeune femme qui a carrément jeté son bonnet par-dessus les moulins et mène une existence ultra légère. Cela fait, le reste me regarde. À vous maintenant, madame, de me dire si vous avez déjà une idée, ce qui doit être. Car je n'ignore point que vous êtes doué d'une imagination des plus fertiles, et je suis persuadé que si vous êtes encore un peu embarrassé sur le choix des moyens, vous n'allez pas tarder à voir clair dans le jeu. En tout cas, je crois que de mon côté, je ne suis pas très maladroit et peut-être pourrions-nous établir une collaboration qui, j'en suis convaincu, ne tarderait pas à donner des résultats excellents.
Je ne demande pas mieux, répliquait la baronne. Ainsi que vous venez de me le dire, cher monsieur, la mission que vous me confiez est très difficile. Oh, c'est une simple réserve que je fais, et je suis sûr que, du moment que vous consentez à m'aider de vos conseils, en même temps qu'à me subventionner d'une façon aussi large, nous devons réussir. Maintenant que me voilà bien au courant de ce que vous voulez, voulez-vous me permettre de vous poser quelques questions?
Très volontiers.
Quel âge a cette jeune femme?
25 ans.
Elle est belle?
Très belle. Je vous ai d'ailleurs apporté une de ses photos, car j'ai bien pensé qu'elle vous serait très utile.
L'Américain tira de son portefeuille un portrait d'amateur qu'il avait fait lui-même quelque temps auparavant et qui représentait la comtesse de Préfailles dans une pose et dans une toilette des plus avantageuses. À peine la baronne Merloup y avait-elle jeté les yeux qu'elle s'écriait « Michel !»
Jacques Sorette s'écriait « Vous la connaissez donc ?»«
Oui, » reprit la baronne Merloup.
« Alors, » s'exclamait l'Américain, « cela va simplifier les choses !»
La prêteuse à gages soupirait. « Oh, je crois que cela va les compliquer, au contraire. »«
Tiens, pourquoi ?»«
Parce que c'est sur une plainte de sa mère que j'ai eu tous les ennuis auxquels tout à l'heure vous avez fait illusion. Et il va m'être difficile d'entrer en rapport avec madame de Préfailles. »«
Oh, le fait est que voilà un contretemps bien fâcheux, » déclarait le milliardaire. Décidément, si parfois le hasard fait bien les choses, il est d'autres circonstances dans lesquelles il conduit plutôt mal les événements. Et d'un ton dépité, il ajouta, « Ben voilà qui est infiniment regrettable. Il ne me reste plus, madame, que de vous exprimer le regret de vous avoir dérangé. Maintenant, oh, je suis le premier à reconnaître, il vous est impossible de vous occuper de cette affaire. »
Il se leva et prêt à partir. La baronne, fort ennuyée de ce contretemps qui faisait passer à côté une véritable fortune, s'écriait, cherchant à le retenir,
Attendez une minute, cher monsieur. Peut-être existe-t-il un moyen de tout arranger.
Vous croyez?
Oui, tout à l'heure, pendant que vous me parliez, il m'est venu précisément une idée que je crois assez intéressante. Voulez-vous me permettre de vous la communiquer?
Je vous écoute, madame.
Alors, veuillez vous rasseoir, monsieur.
Sir Jacques se réinstalla sur son siège et la baronne Merlou reprit aussitôt.
Tout à l'heure, ainsi que vous l'avez dit, madame de Préfa est une femme qu'il ne faut pas attaquer de front, surtout sur le chapitre de la vertu. Maintenant que je sais que c'est elle qui est en jeu, je puis vous l'affirmer que personne au monde pourrait la faire trébucher. C'est une de ces natures qui sont incapables du plus léger faux pas, et qui, lorsqu'elles se donnent, ne se reprennent jamais, surtout pour se livrer à un autre. Vouloir l'entraîner dans une existence aventureuse, afin de la compromettre, ainsi que vous avez le proposé, serait une entreprise qui, d'avance, serait vouée au plus retentissant échec. Que ce soit moi ou une autre qui agisse, le résultat ne saurait être que négatif. Mais, cher monsieur, je voudrais, avant de rompre les pourparlers que nous avons engagés, vous raconter une anecdote empruntée à l'histoire de France. Vous la connaissez peut-être, car elle est célèbre dans le monde entier sous le nom de l'affaire du collier.
L'affaire du collier, répétait l'Américain, qui était dénué de toute espèce de culture.
Mais son orgueil l'empêchait d'étaler son ignorance aux yeux de son interlocutrice et il reprit.
Oui, parfaitement, parfaitement. Je me souviens en effet, mais je vous avouerai que les détails de cette affaire m'ont plutôt échappé. J'ai tellement de choses en tête. Aussi vous demanderai-je de me rafraîchir un peu la mémoire.
Avec plaisir, cher monsieur.
Très flatté d'étaler devant ce richissime Yankee ses connaissances historiques, la baronne Merlou résuma ainsi.
En 1776, deux joailliers de Paris, nommés Bohmer et Bossange, présentèrent à la reine Marie-Antoinette un admirable collier en diamant, pour lequel ils demandaient un prix d'1 600 000 livres. Bien que les finances de la France eussent en très mauvais état, Louis XVI voulut offrir ce fameux collier à la reine alors qu'elle venait de mettre au monde son premier enfant. Marie-Antoinette lui répondit qu'il était préférable de consacrer une telle somme à la construction d'un vaisseau de guerre. Quelque temps après, une intrigante qui avait réussi à se faufiler à la cour et qui faisait appeler la comtesse de la Motte Valois, ayant appris que le cardinal de Rohan était très désireux de rentrer dans les bonnes grâces de la reine, dont il était éperdument amoureux, suggéra au cardinal l'idée d'offrir lui-même ce collier à sa majesté. En réalité, cette madame de la Motte n'avait qu'un but, s'emparer du collier, ainsi qu'elle le fit d'ailleurs, et le faire vendre à l'étranger. Mais il fallait avant tout, et c'est sur le point que j'attire plus spécialement votre attention, convaincre le cardinal de Rohan que la reine était disposée non seulement à accepter ce don du collier, mais encore à accorder ça, et même ses faveurs au donateur de ce royal présent. Marie-Antoinette, naturellement, était dans l'ignorance absolue de toutes ces intrigues, et pour atteindre son but, savez-vous ce que madame de Valois imagina?
Je me rappelle pas très bien, répliquait Jack Sorette.
Vous allez voir, c'est à la fois d'une audace et d'une simplicité remarquables. La comtesse de Valois découvrit dans les bas-fonds de Paris une femme de mœurs légères nommée Oliva, qui ressemblait à la reine d'une façon extraordinaire. Elle s'aboucha avec elle et obtint facilement de cette gourgandine qu'elle jouerait auprès du cardinal de Rohan le rôle de sa majesté. Un rendez-vous fut pris un soir dans le parc de Versailles, près de la pièce d'eau dite des Suisses. Le cardinal devait s'y rendre déguisé, et la reine, du moins la fausse reine, en passant près de lui, laisserait tomber, en signe d'acceptation, une rose prise devant lui à son corsage. La comédie se passa ainsi que l'avait régulé cette habile entremetteuse. Le cardinal rentra chez lui complètement affolé et n'hésita pas un seul instant à acheter le collier à Beaumer et Bossange. Mais là, je m'arrête, ce qui était intéressant de souligner. C'est non point la suite de cette histoire, qui se terminera d'ailleurs fort mal pour tout le monde, mais la réussite de la ruse employée par Madame de la Motte-Valois. Voilà pourquoi, me remémorant cette aventure, je me demande si, au lieu d'attaquer de front Michel de Préfailles, il ne vaudrait pas mieux lui trouver un sosie, afin de le faire agir en conséquence et conformément à vos vues. Que pensez-vous de cela, cher monsieur ? L'Américain, toujours très calme, répondait « Je pense que c'est très ingénieux. Mais où découvrir une femme qui ressemble à Madame de Préfailles d'une façon assez exacte pour qu'il soit impossible de les différencier l'une de l'autre ?»« Mais cette femme existe, » répliquait la prêteuse à gages. Malgré tout son empire sur lui-même, le milliardaire ne put réprimer un léger tressaillement. « Vous dites que cette femme existe ?» répéta-t-il d'un air déjà sceptique. « Parfaitement. Vous la connaissez ?»«
Oui, je la connais. »«
Vous savez où elle demeure ?»«
Oh, je le sais. »«
Vous croyez pouvoir l'approcher sans difficulté ?»«
Aucune. »
« Et vous estimez qu'elle acceptera de se faire passer pour la comtesse de Préfailles ?»
Oh, c'est une question de prix à débattre, et comme vous me semblez très disposé à vous montrer très généreux, je puis d'ores et déjà vous affirmer que tout se passera selon vos désirs.
Par exemple, déclarait Jacques Sorette, moi je serais jamais attendu à une pareille révélation. Comment, il y a en ce monde une autre Michel de Préfailles?
La baronne Marloux reprenait.
Votre surprise, cher monsieur, sera dissipée lorsque je vous aurai appris que cette personne n'est autre que la demi-sœur de la comtesse. La demi-sœur, mais de quel côté, du père ou de la mère?
Du père.
Mais monsieur de Montguer avait donc été marié deux fois?
Non, mais il avait une maîtresse dont il eut un enfant qui n'est autre que la personne avec laquelle je vous propose d'entrer en négociation.
Je voudrais auparavant que vous me donniez sur elle quelques renseignements qu'exige la prudence la plus élémentaire. Cette femme, sait-elle qu'elle est la sœur de la comtesse?
Elle l'ignore. Le secret de sa naissance a été bien gardé. Je dois ajouter que M. de Montgobert, qui, bien que de conduite légère, était un homme d'honneur dans toute l'acception du mot, avait tenu à ce que sa fille naturelle fût très bien élevée et ne manquât d'aucun de ses soins moraux et matériels qu'il ne pouvait lui prodiguer lui-même. Bien qu'il eût une fortune plutôt médiocre, il ne recula devant aucun sacrifice. En cela, il fut approuvé tacitement par Madame de Montgobert, qui connaissait l'existence de cet enfant né en dehors du mariage, mais n'avait jamais voulu, par respect pour le nom qu'elle portait, faire à son mari la moindre allusion à ce sujet. Malheureusement, la petite Juliette tourna fort mal. Sa mère était une de ces femmes insignifiantes, qui n'ont ni caractère ni volonté, et elle mourut d'ailleurs assez tôt, et Juliette fut confiée à des étrangers. À 18 ans, elle les quittait soi-disant pour entrer comme dactylographe dans une grande maison de commerce, mais en réalité pour suivre un jeune homme dont elle s'était amourachée et qui n'était autre qu'un de ces donjons de trottoir qui en fit bientôt sa proie et sa victime. Monsieur de Montgobert, ayant été tué pendant la guerre,
Et la marquise, ignorant ce qu'était devenue la fille naturelle de son mari, aucune main ne se tendit vers la malheureuse pour l'arracher à une déchéance qui fut aussi complète que rapide. Si bien qu'en ce moment, elle est la pensionnaire d'une maison mal famée de Nice. Dernièrement encore, elle m'a écrit pour me demander de lui prêter de l'argent, sous prétexte qu'elle avait été malade. J'ai fait ce que j'ai pu, je lui ai envoyé un billet de 1 000 francs. Elle m'en a accusé réception en me remerciant beaucoup. C'est donc pour dire combien le terrain est favorablement préparé. Mais de quelle façon êtes-vous entré en rapport avec elle? Questionnait le financier, qui tenait évidemment à avoir toutes les garanties. La baronne Merloux, devinant qu'il était indispensable de lui donner des apaisements nécessaires, reprit, sans se faire prier le moindrement, « C'est moi qui autrefois ai longtemps servi d'intermédiaire entre le colonel marquis de Montgobert et son ami. » Cette explication parut donner satisfaction à l'Américain qui reprit. Et cette Juliette n'a jamais cherché à faire chanter Madame de Montgobert ni Madame de Préfailles? Non, car je vous répète, elle ignore le nom de son père, et pour des raisons de convenance paternelle, je n'ai pas cru devoir le lui révéler. Bien, approuva le milliardaire, et la baronne Merloux résumait. Bien voilà, cher monsieur, tout ce que je puis vous dire. J'ai l'impression que nous sommes dans la bonne voie. Maintenant, si vous voulez réfléchir à ma proposition. Bon, c'est inutile, coupa Sir Jacques Sorette. J'ai réfléchi. Et vous acceptez? Oui, j'accepte. En homme qui ne laisse pas traîner les affaires, il sortit de sa poche un carnet de chèques, et avec un stylo qui ne le quittait jamais, il a rempli le libellé et remit le précieux papier à la baronne, tout en lui disant « Voici le premier compte que je m'étais engagé à vous verser. Nous sommes donc complètement d'accord. Je vous donne 8 jours pour aller chercher cette femme et pour vous entendre avec elle. Nous sommes aujourd'hui au lundi, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. » « Eh bien, de lundi en 8 à la même heure, je me présenterai chez vous, afin que nous nous entendions sur la ligne de conduite à tenir. »« C'est convenu, cher monsieur, et moi je vous présenterai la jeune dame en question. »« C'est inutile, » déclarait le milliardaire. « Non, je vous donnerai simplement mes directives. »« Je préférerais, jusqu'à nouvel ordre, rester, que cette demoiselle ne sache pas que je suis l'animateur de cette histoire. Par la suite, je verrai quelle attitude adopter. Mais en attendant, je compte sur votre discrétion absolue. » « Vous pouvez être tranquille, cher monsieur, » affirmait la baronne Merloux. « J'ai été la confidente de bien des secrets, et jamais nul au monde n'a pu m'accuser d'en avoir trahi un seul. » « Donc à lundi, madame. » « À lundi, cher monsieur. » La prêteuse à gages reconduisit son opulent visiteur jusqu'au seuil du salon, où la camériste, alertée par un coup de sonnette, l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée. Demeurée seule, l'aventurière laissa échapper un cri de joie mauvaise. « Enfin, dit-elle, mon tour est venu, non seulement d'être riche, mais aussi d'être vengée. J'ai bien fait d'attendre mon heure et de garder le silence. » Maintenant, la baronne de Montgobert va me payer cher les 10 ans de prison que je lui dois.
Chapitre 4. Une épave. À Nice, vers le milieu de la rue Croix de Marbre, il existe un bar dont l'extérieur ressemble à celui de bien d'autres, mais qui semble indiquer un établissement d'ordre extrêmement modeste. Lorsqu'on y pénètre, l'impression ne change guère. On y voit, juchés sur de grands tabourets et absorbant au comptoir des consommations diverses, des représentants des deux sexes qui ne sont pas précisément faits pour donner une bonne opinion du lieu.
En effet, ce ne sont que des demoiselles de mœurs faciles qu'accompagnent les individus qui leur servent habituellement de chevaliers servants. Cet établissement, qui s'appelle Calix Bar, est connu dans le monde de la basse noce sous le nom de l'aquarium, ce qui nous dispense de préciser davantage le genre de clientèle qu'il a l'habitude de recevoir. Ce soir-là, l'assistance était assez nombreuse, et de temps en temps, l'une des dames, après avoir avalé un cocktail, sortait dans la rue après avoir adressé un regard significatif au jeune homme nettement interlope qui l'accompagnait, et laissait celui-ci en train de déguster paisiblement sa consommation. Bientôt, il ne resta plus que ces messieurs, entre lesquels semblait régner d'ailleurs une cordialité toute confraternelle. L'un d'eux, un grand gaillard, dont le smoking dessinait les épaules carrées comme celles d'un Hervy du port de Marseille, et dont la figure au nez cassé et aux grosses lèvres ressemblait à celle d'un boxeur singulièrement amoché, s'écria d'une voix grasseyante « Qu'est-ce qui fait un poker d'as ?» Trois de ses compagnons se rapprochèrent. Le garçon du bar présenta un cornet, des dés, et la partie s'engagea. Pendant ce temps, la porte s'était ouverte de nouveau, livrant passage à une dame d'un certain âge, vêtue d'une sortie de bal assez élégante, et dont le visage disparaissait aux trois quarts sous une épaisse mantille. Son entrée passa d'ailleurs inaperçue. Cette femme, qui à sa démarche ne devait pas être de la première jeunesse, s'en fut s'asseoir à une petite table isolée et commanda un martini au garçon qui se présentait à elle. Soulevant l'incognito, ou plutôt la mantille, sous laquelle cette personne dissimule ses traits, et nous reconnaîtrons immédiatement la baronne Merloux. Celle-ci, en effet, fidèle à l'engagement qu'elle avait contracté envers Jacques Sorette, et désireuse de mener vite et bien l'importante affaire que celui-ci lui avait confiée, avait pris le train pour Nice dès le lendemain de son entrevue avec l'Américain. À peu près sûre de rencontrer au Calix Bar cette Juliette qui était connue dans le demi-pègre niçoise sous le sobriquet de la môme aux yeux bleus, elle s'était rendue vers 10 heures dans cet établissement. Afin de se donner une contenance, elle demanda de quoi écrire au garçon qui lui avait servi à Martini, et elle feignit de se plonger dans la rédaction d'une lettre importante tout en attendant l'arrivée de celle qu'elle était venue relancer. Mais Juliette ne paraissait toujours pas. Et le temps passait, et Madame Merloux se demandait si elle n'avait pas fait fausse route, lorsqu'un des jeunes gigolos, qui faisait une partie de poker d'as et venait de la perdre, aperçut cette dame seule et murmura à l'oreille de son voisin « Pige un peu la rombière !» Et cyniquement, il ajouta « Il y a peut-être quelque chose à faire !» Ça tomberait rudement bien car je suis fauché. Il n'y a pas ce soir. Oh, il me faut du fric. Tu peux toujours essayer, fit l'autre. Ce gigolo exerçait vaguement la profession d'allumeur dans un dancing de 5e catégorie, qui d'ailleurs venait de fermer ses portes quelques jours auparavant. Il s'approcha de la baronne, qui semblait de plus en plus absorbée dans sa correspondance. Et d'un ton doucereux, insinuant, il fit « Alors, on est toute seule ce soir ?» Madame Merloux leva les yeux et tout de suite fixée sur la véritable profession de son interlocuteur, elle fit d'un ton sec « Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire ?» Cette réplique était tellement faite pour démonter l'entreprenant séducteur que sa spécialité pour personnes âgées avait fait surnommer par ses amis le restaurateur des ruines. Aussi reprit-il d'un ton qu'il s'efforçait de rendre de plus en plus aimable, « Madame attend sans doute son petit ami. »« Je vous prie de me laisser tranquille, n'est-ce pas ?» ordonnait impérieusement cette fois l'ambassadrice de Sir Jacques Sorette. Mais Rodolphe Tourbineau, c'était le nom de ce jeune métèque,
répliquait toujours sur le même ton.
Mais quand on veut être tranquille, on vient pas ici, belle dame.
Pourquoi?
Parce que généralement, quand une femme entre au Calisbar, sans être accompagnée, c'est généralement pas pour rester toute seule.
Vous êtes bien insolent.
En quoi suis-je insolent, madame? Véritablement, je croyais pas vous manquer de respect en vous prêtant des intentions, somme toute fort naturelles.
Ben, il est probable que je vous plais pas, mais j'aimerais bien que vous me le disiez franchement, parce qu'alors je cesserai de vous importuner et je m'empresserai de céder la place à un camarade qui, plus heureux que moi, aurait l'avantage de vous être sympathique. Il n'en manque pas dans la maison, et au cachet, vous n'auriez que l'embarras du choix.
Tandis qu'il parlait, le visage de la baronne Merloux, d'abord contracté par la colère qui commençait à gronder en elle, se détendit peu à peu. Était-ce parce que ce jeune drôle aux allures si désinvoltes avait réussi à la désarmer par son cynisme, ou bien une autre idée lui était-elle passée par la tête? Toujours est-il que, se radoucissant tout à coup, elle fit
« Après tout, vous avez raison. Allez, asseyez-vous, nous allons prendre quelque chose. »
Le bel âtre s'installa en face de celle dont il avait entrepris la conquête, et se croyant sûr maintenant du succès, il fit, en bombant le torse et en passant les pouces dans les entournures de son gilet,
« Je vous préviens, ma belle, que je ne bois que du champagne Helsic Monopole, Brut 1921. » Mon petit estomac ne me permet pas autre chose.
Vous commandez vous-même, répliquait la prêtresse à gage, qui maintenant semblait décidée à ne reculer devant aucune dépense.
Le triste sire fit signe au garçon qui s'approcha. Il lui murmura à l'oreille quelques paroles. Le garçon eut un sourire entendu. Il y avait évidemment combine entre eux et sur la bouteille de mauvais mousseux qu'on allait apporter, dont le prix était de 190 francs sur la carte, non seulement le patron encaissait un gros bénéfice, mais il y avait encore une ristourne intéressante et pour celui qui la servait et pour celui qui l'avait commandé. Nous n'étonnerons pas nos lectrices ni nos lecteurs en leur déclarant que la baronne Merloux, qui avait dû en voir bien d'autres, s'était parfaitement aperçue de ce petit manège, et que loin d'être dupe du gigolo, elle allait au contraire se servir de lui dans un sens tout opposé à celui qu'il escomptait. Avec une suffisance toute professionnelle, Rodolphe Tourbineau reprenait.
« Alors, chérie, on est venu faire un peu la ribolderianis. »
La baronne, qui avait adopté un plan de conduite dont elle seule connaissait les fins, reprenait
« Oh, je viens d'avoir de gros ennuis et j'éprouve le besoin de me distraire. »«
Eh bien, vous tombez à merveille, car je n'entends pas précisément la mélancolie, et puis, si vous avez de la peine, je me charge de vous consoler. Je suis aussi un sentimental, moi, un caressant, et je suis convaincu que nous allons nous entendre à merveille. » Vous voulez bien que je te tutoie?
J'allais te le demander, mon beau gosse, répondait la baronne, qui avait son plan.
Comment t'appelles-tu?
Paulette.
Et moi, Rodolphe.
Oh, Rodolphe.
Oui, je suis d'un père italien et d'une mère parisienne.
C'est donc cela que tu as de si beaux yeux et tant d'esprit?
On fait ce qu'on peut, on fait aussi ce qu'on doit.
Comme le garçon venait de remplir les deux coupes qu'il avait placées sur la table, le restaurateur des ruines leva la sienne en disant
« À ta santé, ma Paulette, et à nos amours. »
« À nos amours, » répéta la prêteuse,
en choquant sa coupe contre celle du gigolo.
« C'est égal, » se disait-elle intérieurement, « il va fort. Avant la guerre, jamais un jeune homme, quel qu'il soit, n'aurait jamais osé tenir un pareil langage à une femme de mon âge. Il s'y serait certainement pris autrement. » Mais intérieurement, la vieille coquette
dut s'avouer que cette brutalité ne lui était pas désagréable. Et qui sait, peut-être même allait-elle se laisser aller au charme pervers et spécial que dégageait l'écœurant individu qui se trouvait en face d'elle. Lorsque tout à coup, telle une surimpression de cinéma, la silhouette de Jack Sorette lui apparut par la pensée, lui rappelant l'engagement qu'elle avait pris envers lui, en même temps que la partie formidable qu'elle était apprêtée à jouer. Imposant silence aux sentiments langoureux qui commençaient à s'éveiller en elle, elle se ressaisit et se dit « Mais attention, je ne suis pas venu ici pour me faire enlever par un joli garçon. » Et tout haut, elle reprit « Dis-moi, Rodolphe, tu vas peut-être me donner un renseignement. »
Avec plaisir. Je m'occupe en ce moment de recruter des artistes pour le cinéma. Et, soit dit en passant, si cela te plaisait de tourner un film, je pourrais te mettre en rapport avec un metteur en scène qui certainement ne manquerait pas de t'employer, car tu dois être extrêmement photogénique.
On me l'a déjà dit, répliqua Turbineau avec fatuité. Bon, voilà! Tant qu'à vendre mon beau physique, je veux que ça me rapporte la grosse galette. Et en France, on ne peut pas, c'est les artistes.
C'est à voir, observait l'entremetteuse. Et puis, ce serait peut-être pour toi un moyen de te faire remarquer par les Américains, qui sont toujours à la recherche des jeunes premiers intéressants, et ne manqueraient pas, j'en suis sûr, de te couvrir de dollars.
C'est à voir, en effet, reprenait le gigolo d'un air détaché. Je dis pas non, je ne suis pas pressé, je n'y tiens pas. Pour me décider, il faudrait alors qu'on me proposât un engagement épatant.
Ça peut venir, mais en attendant, tu connaîtrais peut-être parmi tes camarades des jeunes gens qui se montreraient moins difficiles que toi.
Non, je ne vois pas, on nous a tellement monté de bobards avec le cinéma qu'on se méfie. On est ni si tranquille comme on se laisse vivre. On n'est pas embêté, on se lève à l'heure que l'on veut, on se couche quand ça vous plaît. Tandis que lorsqu'on est imbriqué dans une troupe, c'est comme à la caserne, faut être exact. Et si on est en retard, au lieu de vous mettre dedans, on vous fiche dehors. Aussi tout bien réfléchi, le cinéma se passera de moi, et je me passerai de lui.
C'est curieux, insinuait la baronne. Autant les femmes sont toujours disposées à paraître sur l'écran, autant les hommes, au contraire, sont plus difficiles à tenter.
Oh, les femmes, c'est pour elles une question d'orgueil, de publicité. Cela les amuse d'aller dans les studios. Ça, pour les poules, ma petite Paulette, je suis tranquille. On t'en trouvera tant que t'en voudras.
Madame Merloup, qui décidément jouait fort habilement le rôle qu'elle s'était assigné, reprenait.
Oh, crois pas cela, mon petit chou. Les femmes, on en trouve beaucoup, c'est vrai, qui ne demandent pas mieux que de faire du cinéma. Mais s'il y a la quantité, il n'y a pas toujours la qualité. Et puis on a des surprises. Des gosses qui sont très jolies à la ville, épatantes même, deviennent tout à fait moches à l'écran. Ou c'est le contraire, des femmes très ordinaires à la ville deviennent superbes, sans qu'on sache ni pourquoi ni comment. Le tout est de savoir trouver son sujet, comme disent les metteurs en scène, de le bien placer, c'est-à-dire de lui distribuer le personnage qui lui convient.
« Dis donc, observait Rodolphe, t'es calé. Tu ne veux pas me le dire, toi, mais... « Je suis sûr que t'es une vedette. »«
Mais non, je t'assure. »«
Allez, allez, fais pas la sucrée. »« Je te dis que t'es une star. »«
Mais non. »«
Alors, t'es metteuse en scène. »«
Non, pas moi, mais j'en connais un. »« Mais c'est justement lui qui, sachant que je venais à Nice, m'a demandé si je découvrais des sujets intéressants, hommes ou femmes, de les laisser y aller. »
Rodolphe s'écriait, tout en remplissant les coupes de champagne qui étaient vides.
Je comprends maintenant pourquoi t'es venu au Calixbar. Ça, c'est pas trop bête, car ici, il y a quelquefois des numéros épatants. Et si ce soir, il n'y a pas grand-chose d'épatant, ça peut venir encore. Et si ça peut te faire plaisir, je connais tout le monde ici, je suis même très bien avec toutes ces dames. Je pourrais te donner tous les tuyaux que tu voudras.
Tu es vraiment gentil, reprenait Madame Merlou, qui semblait très satisfaite de la tournure que prenait la conversation. Le gigolo ajoutait,
ce qui ne nous empêchera pas, d'ailleurs, de te reconduire jusqu'à ton hôtel et même jusque dans ta chambre, si ça peut te faire plaisir.
Tout en prononçant ces mots, Rodolphe fixait d'un œil animé de convoitise une très belle bague en brillant que portait la prêteuse à gages. Celle-ci, feignant d'entrer dans le jeu de son interlocuteur, s'écriait
« nous verrons ça tout à l'heure. Je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non. »
Et replaçant la conversation sur le terrain d'où elle voulait la maintenir, elle fit
« Mais ce que mon ami, le metteur en scène, m'a demandé, c'est de lui trouver une femme de 25 à 26 ans, très belle et surtout ayant les yeux très bleus. »
« Les yeux très bleus !» soulignait le restaurateur des ruines.
« Tiens, c'est rigolo. J'ai entendu dire par un régisseur de Rex Ergram, qui tourne ici, que les yeux bleus au cinéma, ça faisait moche. »«
Pas toujours, » répliquait la prêteuse. « Cela dépend des essais que l'on veut en tirer, de la façon dont la photographie est faite. »
Bon, c'est bien possible, tu connais ça sûrement mieux que moi. D'ailleurs, une poule qui a les yeux très bleus, je crois voir cela dans mes relations. Ah, au fait, ça y est, bon, j'ai trouvé, la môme Juliette.
La môme Juliette, répétait la baronne d'un air volontairement étonné. Qu'est-ce que c'est que ça, la môme Juliette?
Ah, une poule épatante, qui devrait être de luxe. Avoir son auto, sa maison, son hôtel, sa maison de campagne, des diamants et des perles à ne pas savoir qu'en faire. Mais ben voilà, il n'y a pas moyen de la tenir. Elle n'est pas fichue de vous garder un homme plus de 8 jours. Et puis, ce qu'il lui faut à elle, c'est le bar et tout ce qui s'ensuit. Pourvu qu'elle fume des cigarettes en buvant des cocktails, elle est contente. Mais rien que l'idée qu'elle peut tomber sous la coupe d'un homme, que ce soit pour recevoir du fric ou pour lui en donner, ça suffit pour la faire cavaler. Oh, c'est un drôle de numéro. C'est plutôt une vraie bohème que de la noce, qui va encore mieux être dans la purée que de céder un petit morceau de ce qu'elle appelle sa liberté.
Et il ajouta,
ah oui, en effet. Si elle voulait faire du cinéma, je crois que comme vedette, elle serait un peu là. Parce qu'elle est intelligente avec ça, et quand elle n'a pas volé trop de cocktails, elle vous a des vraies allures de femme du monde. Elle est même musicienne. Elle joue du piano et très bien, et puis on voit qu'elle a reçu de l'instruction. Quand elle est grise, elle passerait sa soirée, même sa nuit, à vous raconter l'histoire de France. Depuis l'origine jusqu'à nos jours. Seulement elle est piquée.
Sans doute, a insinué la baronne, ne serait-elle stupéfiant?
Non, affirmait le gigolo. Car si elle prenait de la coco ou de l'héroïne, elle serait sûrement des Cathy. Et quand tu la verras, tu pourras constater qu'au contraire, elle était pas tellement conservée qu'elle a encore un teint, une taille de jeune fille.
Mais c'est très intéressant ce que tu me racontes là. Tu me donnes joliment envie de la voir, cette Juliette aux yeux bleus.
Ah, mais ça m'étonne qu'elle ne soit pas là. Elle devrait déjà être arrivée, c'est son heure. Mais bon, voilà, il y a des soirs où elle vient pas.
Ah oui, sans doute est-elle occupée.
Ça arrive, mais aussi il y en a d'autres où elle fiche son camp, se promenait toute seule. Au bord de la mer, le long de la promenade des Anglais. Alors, elle s'assoit sur un banc, elle reste là, rêver longtemps, très longtemps, Il fait pas bon l'approcher de trop près, hein? Car alors, qu'est-ce que vous envoie comme amabilité et comme gentillesse? Ah, la bombe aux yeux bleus, vois-tu, Paulette, c'est un drôle de numéro.
À peine avait-il prononcé ces mots que la porte s'ouvrait avec fracas, laissant apparaître deux femmes, dont l'une brune, même menue, d'aspect sautillant, s'avança aussitôt vers le jeune Rodolphe, tout en lançant d'une voix de vinaigre.
« Je t'y prends encore, toi, à faire du plat à une vieille poule !»
Visiblement interloqué, le gigolo répliqua « Eh, toi, fiche-moi la paix. J'étais en train de causer cinéma avec madame. » La demoiselle reprenait d'une voix de plus en plus acidulée.
« Allons, viens, je t'emmène.
Tu parleras de cinéma une autre fois. »
Derrière elle se profilait une femme qui répondait exactement à la description que Tourbino venait de faire à la baronne Merloux. C'était en effet la môme aux yeux bleus, c'est-à-dire Juliette l'Espagnac, la fille naturelle du marquis de Montgobert. Trouvant sans doute que son petit ami ne lui obéissait pas assez vite, la jeune demi-mondaine, que ses amis avaient surnommée méchamment Pruneau Cru, saisit le danseur par le bras et d'une poigne qui devait être d'acier, elle le fit se lever et l'entraîna vers le comptoir. La baronne Merloux ne parut pas prêter la moindre attention à la manifestation nettement agressive à son égard à laquelle venait de se livrer Mademoiselle Pruneau Cru. Uniquement préoccupée de Juliette, elle dit simplement en s'adressant à elle « Mademoiselle !» Juliette la regarda et ne la ressemblant pas tout de suite. « Vous désirez, madame ?» fit-elle. La baronne Merloux, soulevant sa mantille, et découvrit entièrement son visage.
« Vous ici ?»
s'exclama la dévoyée.
« Oui, moi. Oh, par exemple, si je m'attendais...
« Asseyez-vous, ma chère enfant. » Machinalement, la môme aux yeux bleus s'installa à la place que venait de quitter le gigolo. Puis, avec un sourire rempli d'amertume et de mélancolie, elle fit
« Mais par quel hasard êtes-vous ici ?»«
Oh, ce n'est point par hasard, » répliqua la prêteuse. « C'est au contraire, volontairement. »«
Ah, vraiment ?»
s'exclamait Juliette, dont le regard révélait à lui seul toute la neurasthénie profonde dont elle était atteinte. Madame Merloux expliquait.
« Oui, j'avais besoin de vous parler. À moi ?»
s'étonnait son interlocutrice.
« Oui, à vous. Il s'agit de choses très importantes. »
D'un air désabusé, en femme qui s'attend à toutes les catastrophes, Juliette reprenait.
Oh, « Mauvaise, sans doute. Mais non, mon enfant, pas du tout. Oh, vous n'avez pas besoin de vous gêner avec moi. Je suis habitué au malheur. J'ai été marqué dès ma naissance et jusqu'à ma mort, il en sera ainsi. Voilà pourquoi je tiens si peu à la vie. Mais si j'étais courageux, oh, il y a longtemps que je lui aurais dit bonsoir. » Mais à vous, je puis bien le dire. J'ai peur du grand trou noir où l'on m'enfouirait et où je serais abandonné pour toujours dans la terre. Oh, rien que de penser à cela, ça me donne froid dans le dos. Dites, madame Merloux, vous voulez bien m'offrir un cocktail?
Mais oui, ma fille. La baronne appela le garçon.
Un martini,
commanda la môme aux yeux bleus, d'une voix traînante. La baronne reprenait.
« Il faut pas vous mettre de pareilles idées en tête. C'est qu'elles y sont bien installées.
Eh bien, je suis venu pour les déloger.
Vous aurez bien du mal. Je crois même, ma pauvre madame, que vous perdez votre temps. Non, je suis certaine du contraire. Moi... je suis sûr que vous ne me guérirez pas. Le garçon apportait le cocktail demandé. La môme aux yeux bleus le but d'un trait et reposa son verre si rudement sur la table que le pied se brisa en deux. « Le verre blanc, » fit-elle en ricanant, « il y a longtemps que cela me porte plus bonheur. Je pourrais casser tout ce qu'il y a de cristal ici. Je suis sûr que j'en aurais pas moins la poisse, la sale poisse à laquelle je peux pas m'arracher. « Eh bien, je suis convaincu, au contraire, » déclarait l'entremetteuse, « que ce soir, pour vous, le proverbe sera du bon. Car, si vous vous y prêtez un peu, je puis vous enlever ce cafard terrible qui a fait d'une des plus belles filles qui soit une véritable épave, qui s'en va à la dérive, on ne sait où, ou plutôt, si on le sait trop bien. À l'hôpital, n'est-ce pas ?» ricana Juliette. Puis, se retournant brusquement vers le comptoir, elle cria « Garçon, un autre martini sec, très sec !» La baronne Merloux l'arrêtait du geste. « Vous avez assez bu comme ça, » dit-elle avec autorité. « Vous avez besoin de tout votre sang-froid pour m'écouter, surtout pour me comprendre. D'ailleurs, ce que j'ai à vous dire est simple, et maintenant, laissez-moi parler sans m'interrompre. Je vous écoute. Voici ce que je vous propose. Si vous voulez me suivre à Paris et faire là-bas ce que je vous dirai, votre fortune est assurée. Ma fortune ? Oh, c'est un mot bien vague, observait la môme aux yeux bleus. Non, non, pas quand c'est moi qui le promets, s'affirmait avec aplomb la prêteuse à gages, qui d'un signe avait fait comprendre au garçon qu'il ne fallait pas servir la consommation réclamée par Juliette. Oh, je sais que vous êtes une brave personne, reprenait la môme aux yeux bleus. Vous me l'avez prouvé il n'y a pas bien longtemps, en m'envoyant un billet de 1 000 francs que je vous avais demandé. Quand j'étais petite, et que vous veniez voir ma mère, vous m'apportiez toujours des bonbons, des jouets, et vous m'embrassiez gentiment, comme si j'avais été votre parente. D'ailleurs, en dehors de maman et de vous, je n'ai jamais rencontré de véritable affection. Si des hommes qui m'ont voulu, qui m'ont eu, qui m'ont lâché, qui m'ont reprise et m'ont laissé en moi que de la rancœur, du dégoût et surtout de l'ennui. Je n'étais pas faite pour faire ce métier-là. Je n'étais pas faite non plus pour travailler. Ce qu'il m'aurait fallu, c'est une existence non pas de fille entretenue ou simplement de fille de joie, mais de femme, de vraie mondaine, riche, très riche, ayant un salon, recevant des gens très chics, s'entourant de personnalités connues, vivant dans une atmosphère à la fois de luxe, d'élégance et d'esprit. Madame Merloux, personne n'a jamais voulu me dire, même maman, de qui j'étais la fille. Vous le savez pourtant, vous ne l'avez pas dit non plus, et vous ne me le direz jamais. Eh bien, moi, je suis sûr d'une chose, c'est que j'ai du sang d'aristocrate dans les veines, et que la fille, la rouleuse, l'épave, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, qui est là devant vous, est peut-être la fille d'un de ces grands seigneurs du jour, qu'il a abandonné parce qu'il ne voulait pas avoir un rougir d'une bâtarde. Mais ne pensez plus à tout cela, reprenait l'entremetteuse. Laissez-moi vous dire. Et mon cocktail, réclamait la môme aux yeux bleus. Juliette, je vous en prie, soyez raisonnable, conseillait la baronne. Je vous le répète encore une fois, si vous m'écoutez, vous êtes sauvée. Cette existence de grande dame à laquelle vous aspirez peut bientôt devenir la vôtre. Ne racontez donc pas de bobards. Juliette, vous n'êtes pas gentille. Croyez-vous donc que je me serais dérangé de Paris et que je serais venu vous relancer dans ce bar et m'exposer aux plaisanteries, aux insultes de la clientèle qui s'y trouve, s'il n'avait pas été poussé par un mobile excessivement sérieux.
Lequel?
Mais dans cet endroit, il m'est assez difficile de vous le dire. Si vous voulez, nous allons rentrer toutes deux à l'hôtel où je suis descendu. Oh, c'est un établissement très modeste. Je n'aime pas étaler un luxe inutile. Si vous voulez m'accompagner, je vous dirai tout. Je vous expliquerai comment vous pouvez vous évader de votre misère matérielle et morale en jouant, d'accord avec moi, un rôle qui peut vous conduire aux plus brillantes destinées.
La baronne Merloux avait parlé avec un tel accent de conviction que cette fois la malheureuse jeune fille se sentit en confiance avec elle.
« Alors je veux bien, fit-elle, allons-nous-en. » Et elle ajouta d'un air veule, « Ça ne me fera pas de mal de me coucher ce soir de bonne heure et de ne pas être obligée d'attendre un homme pour manger demain matin. »
La baronne Merloux appela le garçon, régla la bouteille de champagne et le cocktail, laissa un généreux pourboire. Toutes deux quittèrent le bal, escortées par les plaisanteries grossières et même obscènes que les filles et les gigolos installés autour du comptoir se furent forcés de lancer sur leur passage.